Vous êtes avec SBS French. Retrouvez les rubriques sur sbs.com.au/french.
Les principales actualités de ce samedi 2 janvier 2021. De nouveaux cas de coronavirus détectés dans le Victoria, mais également à Sydney. À Sydney, où le port du masque va devenir obligatoire à partir de minuit. Aux États-Unis, la fin de règne pénible de Donald Trump. Il vient d'être désavoué par le Sénat, pourtant à majorité républicaine. Et puis aujourd'hui, c'est l'ouverture du mercato d'hiver. Parmi les joueurs qui suscitent la convoitise, le sextuple ballon d'or, Lionel Messi. Et 7 nouveaux cas de transmission locale ont été détectés à Sydney, liés au cluster de Croydon, au cours des 24 dernières heures. En conséquence, la première ministre de Nouvelle-Galles du Sud, Gladys Berejiklian, vient d'annoncer que le port du masque allait être obligatoire, sauf pour les moins de 12 ans, à partir de minuit ce soir, dans tout le Grand Sydney, excusez-moi, et uniquement dans certains lieux clos. On l'écoute.
So masks from midnight tonight will now be compulsory in certain indoor settings, and we want to be very clear about this. We'll be making sure that compliance or enforcement occurs from Monday. So we won't fine you until Monday. The fine will be $200 for not wearing the mask in these settings. But if you're going shopping or in shopping centres, you have to wear a mask. If you're catching public transport, you have to wear a mask. If you're attending an indoor entertainment venue like a cinema, you have to wear a mask. Places of worship, hair and beauty salons, in gaming areas of establishments, and staff at hospitality venues.
Et dans l'état du Victoria aussi, 29 nouveaux cas détectés aujourd'hui, parmi lesquels 10 cas de transmission locale. L'état du Victoria, qui vient de fermer sa frontière à toute la Nouvelle-Galles du Sud, a vu jeudi soir, avant l'heure limite, des milliers de Victoriens rentrer chez eux pour éviter d'être placés en quarantaine. Ces cas qui viennent d'être détectés sont directement liés au cluster apparu ces dernières semaines à Sydney. C'est ce qu'a expliqué le ministre de la Santé, Martin Foley.
We've been quite consistent for some time now, for 2 weeks in fact, that the deteriorating position in New South Wales was of significant concern and that the public health advice was likely to change very quickly in a rapidly changing public health environment. So we make no apologies for closing the border. It was based on the public health advice.
Et alors que des milliers de gens à travers le monde ont déjà reçu leur première dose du vaccin contre le Covid, on y reviendra un peu plus tard dans ce journal, les Australiens, eux, vont devoir attendre jusqu'au mois de mars. Les autorités sanitaires ici expliquent que déployer le vaccin en Australie trop vite pourrait présenter certains dangers. Paul Kelly, qui est médecin-chef de l'Australie, rappelle qu'il faut laisser le temps à la TGA, l'Agence australienne du médicament, tout le temps nécessaire pour analyser les données.
I think people need to realise it's not a magic bullet immediately. When the vaccines are found to be safe and effective, they will be rolled out in Australia. That won't change everything else we're doing in relation to the pandemic immediately. We're aiming for as many people as possible that can get it, starting though with those high priority groups, our healthcare workers, our aged care workers, our aged people who we know are the most vulnerable.
Mais cet argument ne convainc pas le leader de l'opposition, Anthony Albanese. Il pense que la prochaine réunion du cabinet national consacrée au coronavirus, qui est prévue pour l'instant le 5 février prochain, devrait être avancée.
In the meantime, the TGA is expected to approve the Pfizer vaccine in January. The only person, people who are undermining faith in that system is those who say that once it's approved, we still have to wait potentially until March. Surely. The ongoing breakouts show that once the TGA approves a rollout, we should be rolling it out as soon as possible.
En Europe, le Brexit, c'est désormais une réalité depuis hier, pour être précis. Il semble néanmoins que la réapparition des frontières n'a pas provoqué pour l'instant de bouchons dans l'Eurotunnel. Et en Grande-Bretagne, l'une des premières conséquences de ce Brexit, c'est la suppression de la taxe sur la valeur ajoutée sur les tampons et les serviettes hygiéniques. Le Premier ministre Boris Johnson s'y était engagé, c'est désormais chose faite. À Londres, on va faire le point avec Patricia Lecomte pour Radio France Internationale.
Tout juste sorti de l'Union européenne, le gouvernement britannique prend la décision de lever la taxe de 5% minimum sur les tampons et les serviettes hygiéniques. Considérés comme des produits essentiels par l'exécutif, ce dernier s'était engagé à supprimer la taxe sur les produits hygiéniques féminins. Le ministre britannique des Finances, Rishi Sunak, avait dès le mois de mars annoncé la mesure dans son budget. Selon le calcul du ministère des Finances, la suppression de la TVA permettra aux femmes d'économiser environ 40 euros au cours de leur vie. Depuis des années, des associations féministes dénoncent une taxe sexiste. Le sujet est pris au sérieux au Royaume-Uni où les écoles et les universités distribuent gratuitement des protections aux étudiantes. En annonçant cette décision, Rishi Sunak s'est déclaré fier d'avoir pu répondre aux attentes des femmes et s'est également empressé de souligner que si cette mesure est devenue possible, c'est grâce à la sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne. Une façon de tacler l'opposition qui critique le Brexit.
Et aux États-Unis, la fin de règne pénible de Donald Trump, il quittera la Maison-Blanche dans un peu moins de 3 semaines et il a subi hier un véritable camouflet puisque le Sénat, pourtant à majorité républicaine, a voté en faveur du budget de la défense et ce alors que Donald Trump y avait opposé quelques jours plus tôt son veto. C'est la première fois en 4 ans de présidence que les sénateurs républicains refusent de suivre ces directives. On va écouter les explications de Heike Schmidt pour RFI.
À 20 jours de la fin de son mandat, Donald Trump est bien seul. Jamais, depuis son investiture en janvier 2017, le Congrès n'avait contourné un veto présidentiel. Après la Chambre des représentants lundi, c'est donc le Sénat qui humilie le locataire de la Maison-Blanche. Avec une majorité des 2/3, les sénateurs ont adopté le budget de 740 milliards de dollars pour la défense. Le président a donc été lâché par son propre camp. Le texte qui prévoit notamment une hausse de 3% des salaires des soldats est donc définitivement adopté. Le Congrès avait déjà approuvé ce même budget début décembre, mais à la veille de Noël, le président, à la surprise générale, avait annoncé qu'il mettait son veto parce qu'il jugeait le texte trop favorable à la Chine, provoquant la consternation jusque dans son propre camp. Le chef des sénateurs républicains, Mitch McConnell, a tenu tête au président sortant. Avec cet argument, je cite, « Il faut s'assurer que nous restions dans la course face à nos concurrents comme la Russie et la Chine ».
En Israël, la campagne de vaccination contre le Covid-19 avance extrêmement vite. Déjà 1 million de personnes ont été vaccinées, ça représente 10% de la population du pays. Le Premier ministre Benjamin Netanyahou explique ce succès par la qualité du système de santé de l'État hébreu. Sami Boukhelifa pour RFI.
Rien ne semble pouvoir arrêter cette course effrénée à la vaccination en Israël, si ce n'est une contrainte technique. Le vaccin Pfizer-BioNTech, administré jusque-là, nécessite 2 injections à 3 semaines d'intervalle pour être pleinement efficace. Alors, le ministère de la Santé israélien l'annonce déjà. Les équipes médicales pourraient bientôt suspendre les premières vaccinations pour se concentrer uniquement sur les rappels. Mais cette baisse de cadence ne durera pas car l'objectif de l'État hébreu est fixé. Plus de 2 millions d'Israéliens devront être vaccinés d'ici la fin du mois, soit le quart de la population. En parallèle, le pays vit toujours au rythme du confinement général, le 3e depuis le début de l'épidémie. Ce nouveau coup de frein fait beaucoup de mal à l'économie. Afin d'endiguer cette situation, le Premier ministre israélien souhaite à terme la vaccination de la totalité de la population. Le but, rouvrir les commerces et les frontières du pays. En pleine campagne électorale pour les prochaines législatives, Benjamin Netanyahou compte bien mettre à son crédit cette sortie de crise. Sami Boukhelifa, Jérusalem, RFI.
Après le traditionnel discours de Noël de la reine Elisabeth II, c'est hier le commandant Cousteau anglais, le Sir David Attenborough, qui a pris la parole hier. Le présentateur télé de 94 ans a depuis son domicile londonien appelé le monde à mettre en œuvre des changements positifs pour la planète. Et même si l'année 2020 a été particulièrement difficile, elle a prouvé d'après lui qu'en temps de crise, l'humanité est capable de travailler ensemble pour faire face à l'adversité. On l'écoute.
Today, we are experiencing environmental change as never before. And the need to take action has never been more urgent. This year, the world will gather in Glasgow for the United Nations Climate Change Conference. It's a crucial moment in our history.
L'année 2021 sera-t-elle celle de la disparition du travail des enfants à travers le monde? C'est en tout cas la promesse des Nations Unies qui promet de faire davantage d'efforts pour arriver à cet objectif. Néanmoins, des progrès significatifs ont déjà été accomplis au cours des 20 dernières années, puisque le nombre d'enfants qui travaillent à travers le monde est passé de 246 millions en 2000 à 152 millions aujourd'hui. L'organisation Human Rights Watch rappelle qu'en la matière, la responsabilité des gouvernements est immense.
The choices that governments make now are crucial. They can lessen the worst impacts of the crisis on children in the short term and set children up for success in the long term. A critical step that governments can take is to get children back into school as soon as possible once COVID-19 is under control.
Et un mot de sport maintenant, et plus précisément de football, et non pas de soccer, le vrai football. Le mercato d'hiver vient officiellement d'ouvrir et il promet cette année d'être particulièrement suivi puisque de nombreux joueurs de très haut niveau arrivent bientôt en fin de contrat. C'est par exemple le cas de la star du FC Barcelone, Lionel Messi. Pour Radio France Internationale, Thomas de Saint-Léger.
C'est la règle quand un joueur arrive à moins de 6 mois de la fin de son contrat, il peut commencer à discuter avec une autre écurie en vue d'un transfert gratuit à l'été. Le cas de figure se produit régulièrement, mais jamais Lionel Messi ne s'était retrouvé dans cette situation. Joueur d'un seul club, le FC Barcelone, le sextuple Ballon d'Or n'a pas encore quitté le nid catalan, mais ses dernières déclarations laissent peu d'espoir aux supporters Blaugrana. À 33 ans, lassé par les guerres internes, les résultats décevants et peut-être pris aussi d'une envie d'ailleurs, Messi semble enfin décidé à couper le cordon, une aubaine incroyable pour ses courtisans, riches forcément, car il faudra quand même payer l'énorme salaire de la puce argentine. Dans ces conditions, les regards se tournent vers le PSG où il pourrait reformer son duo avec Neymar et Manchester City pour d'autres retrouvailles potentielles avec Pep Guardiola, à moins que dans un énième contre-pied, le génial numéro 10 ne décide de rejoindre le championnat nord-américain, la MLS. De la même manière, l'autre grande Espagne, le Real Madrid, pourrait perdre un joueur emblématique. Son capitaine Sergio Ramos fait lui aussi partie d'une liste impressionnante de joueurs en fin de contrat, liste dans laquelle apparaissent également David Alaba, André Di Maria ou Memphis Depay, pour ne citer qu'eux.
Et pour finir ce bulletin d'information, un point rapide maintenant sur la météo du jour en Australie. 33 degrés du soleil à Perth, soleil aussi à Adelaide où il fait 29 degrés. Quelques averses et peut-être aussi de l'orage à Melbourne aujourd'hui avec le thermomètre qui affiche 26 degrés. 25 degrés à Canberra où le temps est nuageux. Sydney toujours dans la grisaille et sous le crachin avec une température maximale aujourd'hui de 25 degrés. À Brisbane, temps humide et 29 degrés et jusqu'à 33 degrés à Darwin.
Vous voulez entendre d'autres rubriques comme celle-ci ? Écoutez-les sur Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify ou n'importe où vous obtenez vos podcasts.